Dialogue entre Congolais avec Alain Gong à la présentation.
Bonsoir. Adoption vendredi dernier à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale électorale indépendante CENI. Cette adoption intervient suite à l'absence d'harmonisation des divergences apparues dans le projet de loi entre les deux chambres du Parlement, notamment l'absence de la société civile. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi en termes de force, faiblesse et innovation? Trois invités pour partager ce débat, Maître Célestin Toumba Yakassindi, député national de la majorité, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, Général.
Valentin Mouba, qui est président du Comité national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti de l'opposition non institutionnelle, lui est en ligne. Bonsoir, Monsieur Mouba.
Bonsoir.
Fumuntu Basanga, analyste politique et chercheur en système politique africain, il est également avec nous dans ce studio. Bonsoir, Monsieur Fumuntu.
Bonsoir, le téléjournaliste.
Buriatsu également nous sont parvenus dans ce studio. Freddy Kakinda de Lubumbashi Katanga se demande pourquoi la société civile veut aussi être représentée dans la CENI au moment où elle est un prolongement des partis politiques, car elle a perdu son identité en RDC. Gabriel Omasungu de Barumbu à Kinshasa, comment la Chambre basse du Parlement peut-elle nous promettre une transparence à la CENI alors qu'elle refuse la participation de la société civile dans les assises de cette institution? Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Adoption vendredi dernier à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Cette adoption intervient suite à l'absence d'harmonisation des divergences apparues dans le projet de loi entre les deux chambres du Parlement, notamment l'absence de la société civile. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi? Réponse avec vous, Julien Nyamouini.
La loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Elle comporte, entre autres, la mission et les attributions de la CENI, la composition et les modalités de désignation de ses membres, mais aussi elle définit leur statut ainsi que son organisation et son fonctionnement. Cette loi organique prévoit enfin la gestion administrative et financière de la CENI. Cette loi reprend en partie quelques anciennes dispositions existantes, mais elle les modifie et les précise. D'après la commission paritaire, c'est dans le souci d'une efficacité plus accrue. C'est notamment la composition de la commission et le statut de ses membres qui hier dépendaient de leurs composantes respectives. Pour garantir sa transparence, c'est la majorité et l'opposition constituées au sein de l'Assemblée nationale qui participent à la désignation des membres de la CENI. En clair, l'opposition non institutionnelle et la société civile ne sont pas parties prenantes. Fini donc le règne des composantes. Une nouveauté cependant, la CENI comprend un seul organe, le bureau, composé de 7 membres. Le deuxième organe, l'Assemblée plénière de la CENI, proposé par les Sénats, n'a pas mis les deux chambres d'accord. D'autres divergences entre la chambre basse et la chambre haute porte, principalement sur la désignation des membres de la CENI, leur nombre, le sort de la CI, ainsi que le délai d'installation de la CENI.
Merci Julien Nyamouini, honorable Célestin Toumba Yakassindi. Comment vous avez vécu l'adoption de cette loi, vous, député national, loi votée sur fond de divergence avec le Sénat?
Oui, disons, il faut dire tout de suite que la divergence qui est apparue ne devrait effrayer personne. Parce que tout cela repose sur la Constitution. Le projet, en première lecture, a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Le texte a été relu au niveau du Sénat. Et après cette lecture au niveau du Sénat, donc les divergences ont été relevées. C'était, vous avez suivi celui qui vient de faire quelques commentaires tout à l'heure, ça portait notamment sur le nombre d'organes, n'est-ce pas, des deux institutions.
Le Sénat proposait deux organes, l'Assemblée plénière et le bureau, et l'Assemblée nationale était pour un organe, le bureau.
Oui, l'Assemblée nationale était pour un seul organe, pour des raisons simples. C'est tout simplement parce que l'essentiel des opérations de la Commission nationale électorale indépendante, toutes ces opérations vont se passer sur terrain. Il y a des experts, n'est-ce pas, et des techniciens dans les différents bureaux sur terrain, là où se passe pratiquement l'ensemble, disons l'essentiel des activités. Donc, il n'était pas justifié que nous puissions avoir à la fois un bureau gonflé, et en sus de ce bureau, une plénière composée de plusieurs membres. Donc, je pense que l'Assemblée nationale a été plus pratique et plus rationnelle en disant que les 7 membres qui ont été proposés, c'était amplement suffisant pour un travail de coordination, d'encadrement et de suivi.
Alors, la deuxième divergence portait sur la composition même, avec la présence de la société civile ou pas dans cette CENI.
Oui, c'était l'une des divergences. Il y en avait 4 ou 5 divergences. La présence ou la non-présence de la société civile, c'était l'une des divergences. Mais moi, je crois que c'est une mauvaise lecture de ce texte. Quand vous lisez attentivement le texte, vous comprendrez que la société civile n'a pas été écartée.
Comment ça?
Au contraire, monsieur le journaliste, vous verrez que le plus grand bénéficiaire de cette innovation, de la nouvelle copie du texte qui va régir la CENI, vous verrez que le plus grand bénéficiaire, effectivement, c'est la société civile. Pourquoi ça? Parce que, bien que on puisse dire dans le texte qu'il y a 7 membres, 7 choisis, plutôt 4 choisis par la majorité, et 4 choisis par la majorité et 3
par l'opposition.
Eh bien, vérifiez maintenant quelle est la qualité de ces personnes-là qui devraient être choisies. On n'a pas dit que la majorité choisirait ses militants d'avant-garde. On n'a pas dit que l'opposition choisirait ses plus grands lieutenants. Plutôt, le texte est clair. Vous voyez le projet. Il dit que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, les deux composantes choisiraient leur délégué au bureau de la CENI parmi les personnalités congolaises neutres, choisies sur base de leurs compétences, de leur honnêteté et de leur intégrité morale.
Mais dans les partis politiques.
Écoutez, il est difficile à l'heure actuelle, de savoir qui milite dans un parti politique et qui ne milite pas. Vous savez que la plupart des gens se disent membres de la société civile. Eh bien, la plupart sont alignés derrière tous les partis politiques qui existent.
Donc, l'Assemblée nationale a conclu qu'il n'y a pas de société civile en RDC parce que tous sont alignés.
Non seulement cela, ça c'était un argument de débat, mais ce qui est important, c'est que les deux composantes, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, tous vont faire un effort pour ne pas désigner les membres, par exemple, de leur état-major, de leur bureau effectif.
Ça, c'est sûr, pas.
Mais ils vont aller puiser parmi les forces vives des personnalités d'une très grande notoriété. Donc, des gens qui ne vont pas apparaître comme, ayant des étiquettes visibles, comme étant soit de la majorité ou de l'opposition. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la société civile devrait par contre se réjouir et non pas considérer qu'elle a été écartée.
Voilà. Valentin Moubakir, vous êtes président du Comité national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti de l'opposition non institutionnelle. Comment vous avez accueilli l'adoption de cette loi sur la CENI?
Cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI C'est une loi qui jette les bases d'une contestation manifeste des résultats des élections à venir. Je pensais, moi, que la sagesse au niveau de l'Assemblée nationale allait les amener à accepter les propositions d'amendements ou de modifications du projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans le sens de l'équité, dans le sens de l'intérêt de la nation. Pourquoi a-t-on été amené à proposer une commission nationale électorale indépendante? Pourquoi n'a-t-on pas laissé au ministère de l'Intérieur, comme ça se voit dans certains pays, le soin d'organiser les élections? C'est pour éviter justement que le pouvoir en place, ne soit juge et partie, ne puisse tricoter dans le processus électoral, comme on le voit partout. Et alors, le pouvoir en place est constitué par qui? Le pouvoir en place est constitué par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les gens qui sont dans les institutions, c'est ce que lui mettait tout dans la peine, les deux composantes, la majorité actuelle et l'opposition actuelle. Comment voulez-vous assurer l'indépendance et l'équité des élections si ce sont ceux qui sont en place qui se donnent les bons rôles, qui s'entendent comment gérer un dossier aussi délicat et important? Ainsi donc, même si on disait que la société civile n'existe plus, même si on disait que, et difficilement d'ailleurs, M. Tunda ne parvient pas à convaincre qu'on va choisir des personnalités neutres, et ainsi de suite. Quelle est l'étape qui est prévue pour juger de la neutralité de ces personnes avant leur entrée en fonction? Aucune. Nous pensions donc, nous, à l'IDPS, pour l'intérêt de ce pays, que l'indépendance de cette commission nationale électorale devait préoccuper tout le monde. La société civile n'est pas constituée que de ceux que nous connaissons, et d'ailleurs, qui sont aussi dans ces composantes-là, on devait faire un effort de trouver cette personnalité neutre en dehors des politiciens, en dehors de ceux qui gèrent le pouvoir. Et c'est possible dans ce pays. Donc, nous sommes contre ce qui a été fait. De toute façon, nous pensons que ceux qui ont mis en place cette loi-là auront à justifier demain des conséquences qui découleront de cette germe de division qu'ils viennent de jeter dans notre pays.
Valentin Moubaké, peut-on considérer à ce jour que l'adoption de cette loi constitue un signal fort par rapport à l'organisation des prochaines élections?
Oui, mais une mauvaise organisation des élections, c'est un mauvais signal fort. On ne peut pas concevoir une commission indépendante qui est gérée par des politiciens qui sont au pouvoir. C'est pas possible. Il n'est pas possible de trouver cette personnalité indépendante dans ce pays. C'est pas vrai, ça.
Valentin Moubaké, il y a Blaise Osongo de Kananga, au Kasaï-Occidental, qui dit « La mise à l'écart de l'opposition extra-parlementaire et de la société civile de la CENI est une ingratitude quand on sait le rôle qu'elles ont joué. »
Je viens de le dire. Ils sont au pouvoir. Ils se sont arrangés pour conserver le pouvoir par des manœuvres dont et déjà qu'ils sont en train de mettre en place. Cette commission devait être indépendante. Cette commission ne devait pas être gérée par l'AMP et l'opposition appelée institutionnelle. Et le Sénat l'a bien compris. Le Sénat a essayé de modérer cette rigidité-là. Mais ils n'ont pas compris. Ils disent que c'est la proposition de l'Assemblée nationale qui prime. Mais ce sont là les germes de division. Pour l'intérêt du pays, c'est une mauvaise solution, un très mauvais signal.
Fumutoto Basanga, vous êtes analyste politique et chercheur en système politique africain. Vous avez suivi tour à tour l'honorable Célestin Tunda ainsi que Valentin Moubaké. Quelle est votre analyse par rapport à l'adoption de ce projet de loi sur la CENI?
Mon analyse de ce soir va porter sur trois paliers. Premièrement, sur l'approche étymologique et conceptuelle de cette loi et des concepts qu'on a utilisés autour dans l'économie de cette loi. Cette première approche va me permettre de montrer dans le contenu de cette loi à mes propres dispositions, parce que je l'ai devant moi ici. Je dois montrer les forces, les faiblesses et ce qui reste à espérer par rapport aux faiblesses de cette loi, parce que elle est acceptée, adoptée par les chambres, mais n'est pas encore promulguée par le chef de l'État.
Commençons par les forces.
Donc, par rapport aux forces, non, je commence d'abord par ce que je reproche, et c'est à l'intérêt de cette approche que je voulais démontrer les forces et les faiblesses. La deuxième approche de mon intervention sera basée sur l'inquiétude d'une société civile qui serait écartée, et finalement, la possibilité du chef de l'État de nous aider à renforcer l'efficacité et la pertinence de cette loi qui régit désormais l'avenir démocratique de notre pays. Premièrement, il y a une tricherie. Une tricherie par rapport à l'article 211 de la Constitution. Qu'on ait dit parler de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Dans l'économie de cette dénomination, le terme indépendance intervient pour faire quoi? Je crois que le terme indépendance intervient par rapport non seulement aux autres services publics de l'État, mais surtout par le fait que la CENI n'est pas une institution politique. Et ma compréhension est conforme à l'article 2 de la loi en débat. Je cite. La Commission électorale nationale indépendante, si après, la CENI est une institution d'appui à la démocratie. Comment concilier, du point de vue approche, l'existence d'une institution d'appui à la démocratie, c'est-à-dire une institution citoyenne, mais qui doit être exclusivement composée du pouvoir et de l'opposition. Ça devient une caisse de résonance de la classe politique, alors que l'institution est dite citoyenne et d'appui à la démocratie. C'est une violation grave, non seulement de la Constitution, mais aussi du contenu de la présente loi. Ça, c'est la première considération au niveau de l'approche étymologique et conceptuelle du terme. Parce que si nous avons créé la troisième voie, c'est parce que nous avons compris que l'opposition n'a pas totalement raison et le pouvoir non plus totalement tort. Il fallait un courant de pensée qui puisse statuer sur le savoir, qui impose un comportement national et conscient dans l'agir politique.
Alors, on a compris le premier point, c'est la tricherie, et que vous dénoncez. Deuxième point.
Alors, toujours par rapport au premier point, vous verrez l'article 10. Après avoir montré que c'est une institution d'appui à la démocratie, c'est-à-dire une institution citoyenne, l'article 10 de la loi dit ceci. La CENI est composée de 7 membres, dont 4 désignés par la majorité et 3 désignés par l'opposition à l'Assemblée nationale. Je donne 2 précisions ici. L'opposition n'est institutionnelle, n'est pas écartée. Parce qu'ici, on n'a pas dit l'opposition seulement institutionnelle. Non. On dit seulement la CENI est composée de 7 membres, dont 4 désignés par la majorité et 3 par l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, le fait de dire par l'opposition à l'Assemblée nationale, on n'a pas dit seulement l'opposition institutionnelle. Là, je nuance un peu la position de M. Valentin Moubaké. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous comprenez que cette loi et cette structure ne méritent plus d'être appelée une commission électorale nationale indépendante, simplement parce qu'elle est la commission des composantes, comme elle a été la CI
pendant la transition.
Justement, qui s'est dit commission électorale indépendante, alors que réellement c'était une commission des composantes. Et tout le monde regrette l'expérience.
Alors, quelles sont les forces, parce que vous en avez parlé, vous avez
promis d'en parler. Les forces de cette loi, c'est que nous avons trouvé qu'on met l'accent sur le mandat et sur nos critères pour être membre de cette structure. Je cite au préambule, en passant, la commission. Mais si sont choisis ceux qui doivent être membres, parmi les personnalités indépendantes, reconnues par leurs compétences, leur intégrité morale, leur probité, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. Cette conviction est bonne, mais on ne nous a pas montré les moyens ou le critère de sélection
qui nous amèneront effectivement à tomber sur ces oiseaux rares qui, d'ores et généralement, n'existent pas au pays.
Maître Tunda, vous avez suivi hein, Valentin Moubaki et Fumototo Basanga. En plus, il y a des auditeurs, c'est le cas d'Augustin Kaindo Mouessi de Liège en Belgique, qui dit « Dans un contexte de fragile démocratie comme celui de la RDC, éjecter la société civile de la CENI, c'est donner libre cours à la contestation électorale permanente. » Augustin Mwango de Kindo Manyema, je pense que la non-participation de la société civile à la CENI n'est pas une bonne chose, surtout qu'à travers les prochaines élections, nous voulons corriger les erreurs du passé. Raymond Kasangala de Kinshasa, quelles garanties les acteurs politiques peuvent nous donner sur l'impartialité de leurs membres sur les prochaines échéances? Nous risquons de connaître des cycles de contestation des élections à tous les niveaux, ce qui n'est pas crédible dans la démocratie. Enfin, Robert Bahomé de Bukavu, Sud Kivu, comment la neutralité sera-t-elle désormais assurée lors des prochaines élections sans la présence de la société civile parmi les organes de la CENI? Maître Tunda.
Oui, monsieur le journaliste, je suis à l'aise pour répondre à toutes ces observations et surtout pour souligner. J'espère que cette fois-ci, tout le monde va me comprendre. Je répète, monsieur le journaliste, que par rapport au texte qui a été voté, la société civile n'a pas été écartée dans la gestion de la CENI. Et ça, c'est très important, puisque j'ai bien dit que lorsque la majorité et l'opposition vont choisir leurs membres, ils ne vont pas choisir les politiciens.
Mais si je peux être clair
là-dessus, et ça c'est important pour notre population, il faut que l'opinion, tant nationale qu'internationale, puisse bien comprendre ce que je suis en train de dire, parce que tel est l'esprit du texte qui a été voté. Nulle part, même dans les travaux préparatoires, il n'a pas nullement été question de dire que l'opposition ou la majorité choisiront les membres de leurs états-majors ou de leurs partis respectifs pour aller animer la CENI. Les membres, les sept membres que nous qualifions de personnalités de haut rang seront choisis en dehors des rangs des partis politiques. Donc, moi je ne vois pas comment on ne peut pas considérer cette innovation-là comme un gros avantage pour la société civile. Parce que, monsieur le journaliste, à supposer même qu'on ait prévu que la société civile, s'appelle société civile entre guillemets, allait également faire partie de la compétition pour choisir ses délégués, n'est-ce pas, dans le bureau de la CENI. Quelle garantie nous avons, ou quelle garantie la population aurait, que les représentants de la société civile, entre guillemets, seraient, eux, neutres ou bien d'une autorité morale réelle? Qui vous dit que les délégués qui seraient choisis par les structures de la soi-disant société civile, ces délégués-là, seraient des gens qui n'auraient pas de coloration politique? Quelle garantie? À la société civile, comment est-ce que la société civile allait se réunir pour choisir? À supposer on avait prévu deux ou trois places pour eux. Qui à la société civile aurait choisi ces deux ou ces trois membres? Ce qu'il fallait éviter ici, c'est d'amener la confusion dans une structure comme celle-ci. Parce que j'ai entendu ici, on a dit, c'est une structure hautement délicate, hautement importante. Déjà au niveau de la société civile, si aujourd'hui je vous dis, cette société civile, elle ferait un congrès à Kinshasa, appelant les gens de Bukavu, les gens de Kindu, les gens de... Non, écoutez, là, il faut faire...
Le revers de la médaille, c'est que il y a aussi cette opposition qui, par exemple, jusqu'aujourd'hui, n'est pas arrivée à se désigner un porte-parole. Et comment arriveront-ils à désigner trois personnes pour prendre part à la CENI? Et même au niveau de la majorité, risque d'y avoir encore des déchirements.
Oui, ça, c'est un autre niveau, mais au moins, nous pouvons dire que plutôt l'opposition, elle est reconnue, elle existe, et nous pouvons la désigner. Nous pouvons la désigner. Mais si pour des raisons diverses, en ce qui concerne le porte-parole, parce que là, il s'agit de désigner une personne, mais au moins,
vous dites que l'opposition se met ensemble, elle se concerte pour pouvoir désigner des gens. Mais ici, ça aurait déjà, ne fait que le fait de dire qu'il faut que la société civile entre en congrès, se réunisse, eh bien, monsieur le journaliste, on aurait renvoyé ces élections, je ne sais pas dans combien d'années. On n'aurait jamais des élections l'année prochaine.
Alors,
ici, nous avons, disons, tendu une bonne perche à la société civile en disant l'opposition, la majorité. Mais ce qu'il faut considérer ici, et ça je le répète, c'est la qualité des personnes qui vont être choisies ça, pour animer. Et là,
vous l'avez déjà dit, Maître Toumba. Alors que deviendra la CI dans tout ça?
Mais là, le texte, s'il est promulgué par le chef de l'État, dès que le président de la République va promulguer le texte, il y a des dispositions transitoires qui prévoient le sort de la CI. Donc, tout est dit dans le texte.
Peut-être un mot pour les auditeurs qui nous suivent et qui n'ont pas
compris. Bon, pour les auditeurs, c'est que d'ici là, dès que le texte sera promulgué par le chef de l'État, la première étape sera la désignation des membres, disons des délégués. Et dès que les délégués seront installés et qu'on aura fixé le jour de leur installation, eh bien, dès l'installation de la nouvelle structure, donc de la CNI, la CEI va disparaître de plein droit.
Voilà, Valentin Moubaki, il y a un Poutou d'Issiro en province orientale qui dit « L'exclusion de la société civile prouve que les élus du peuple ne reconnaissent plus leurs électeurs. » Philippe Maseka de Collegio Katanga, quelles sont les garanties que les membres de la CENI pourront offrir sur la transparence des résultats des votes quand on sait qu'ils seront nommés et pourront être exposés à des manipulations?
Ce sont des préoccupations tout à fait fondées et vous venez de constater que Maître Toumba, malgré la quinzaine de minutes qu'il vient d'utiliser pour essayer de convaincre, ne parvient pas à convaincre. La Commission nationale électorale indépendante, j'insiste, devrait être différente de la CEI que nous avions connue et dont la plupart des Congolais regrettent aujourd'hui le travail. Je crois que l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante devait se manifester dans les critériums ou la procédure de sa mise en place. Je ne peux pas accepter que dans ce pays, nous n'ayons pas cette personnalité de haut rang qui pouvait être désignée autrement que par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et j'entends par pouvoir, il n'y a pas que le gouvernement, c'est-à-dire l'ANC, mais il y a cette opposition qui est, bien sûr, qui gère au niveau, qui participe à la gestion au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Donc, si déjà, et vous avez posé la question, l'opposition dite institutionnelle, entre guillemets, bien que le terme soit impropre, parce que anticonstitutionnel, si cette opposition-là ne parvient toujours pas à désigner trois personnes, une personne, pour représenter l'opposition, je ne vois pas comment elle va partager trois postes, avoir la multitude des plateformes de l'opposition qui sont là à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, nous pensons que la procédure qui a été utilisée, confiant la nomination ou la désignation de ses membres à la majorité au pouvoir et à l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est une mauvaise procédure, nous répétons, qui jette les bases des contestations et des manipulations des élections à venir. Il faut trouver un mécanisme et il faut y réfléchir. Il y a des pays en Afrique qui ont des commissions indépendantes. Il faut voir comment les autres se sont mis pour mettre en place des commissions indépendantes en dehors des gestionnaires du pouvoir. Mais la façon dont les autres se sont pris, en fait, ils n'ont pas voulu réfléchir, sachant qu'ils veulent profiter le pouvoir pour certains, ils veulent se partager pour d'autres et éviter des élections libres, démocratiques et transparentes.
Je présume, Valentin Moubaki, que ça présage encore que l'UDPS boycotte les prochaines élections.
Pas du tout. Je vous rassure que si c'est ça qu'ils veulent, qu'il vente et qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons là dedans dans les élections et nous disons, car aux apprentis sorciers qui chercheront à rééditer l'exploit de 2006.
Vous avez suivi Fumutoso Basanga qui, dans son analyse, hein, parmi les trois postes réservés à l'opposition, a, d'après son analyse, dit que, qu'il y avait une brèche qui pourrait être peut-être donnée, tendue à l'opposition extra-parlementaire. Accepteriez-vous si vous était proposé à vous un poste à l'opposition non, non institutionnelle?
Mais, mon cher ami, je ne sais pas si en politique, un parti politique sérieux, en tout cas l'UDPS l'est, doit être assujetti à la volonté de tel ou tel autre parti politique pour qu'on me propose ceci parce que tel voudrait me proposer, me tendre la perche, comme l'expression qui a été utilisée tout à l'heure à l'endroit de la société civile. Un droit doit être un droit reconnu et consigné dans les textes. Nulle part dans leurs textes, on mentionne cela. Qui privait ces personnalités qu'il appelle de haut rang neutre? J'ai posé une question. À quelle étape va-t-on examiner leur neutralité et leur calibre de haut rang? Nulle part. Donc ce sont, c'est du verbiage, une phraséologie, encore une fois, pour amener ce pays dans le désordre. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous sommes partie prenante aux élections l'année prochaine.
Alors, Valentin Moubaké, avant de donner la parole à Fumutoso Basanga, ça c'est juste une parenthèse. Hein. Cette loi n'a-t-elle pas finalement été adoptée tardivement?
Eh bien, ils savent pourquoi. Ça fait 2 ans que cette loi pas de va-et-vient entre l'Assemblée nationale, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. C'est sciemment fait. C'est quand tout le monde commençait à se poser la question de savoir s'ils sont réellement, eux, décidés à accepter les élections l'année prochaine, de toutes parts, de l'intérieur du pays comme de l'extérieur, maintenant que cette loi est libérée, et vous voyez la manière avec laquelle elle est libérée, quel est son contenu? Un contenu qui piège le pays, encore une fois.
Fumutoso Basanga et à d'autres auditeurs, Serge Camara de Bouillon, province orientale, à mon avis, la contribution indispensable de la société civile dans la nouvelle loi sur la CENI s'avère indispensable pour les prochaines élections. Pierre Shindanou Koko de Goma au Nord Kivu, la loi sur la CENI a un certain dérapage en écartant catégoriquement la société civile. Il est vraiment temps de décrier cette aberration de la part de nos élus, car dans toutes les démocraties du monde, le contrepoids occupe une place non négligeable en matière électorale. Il y a également la voix de Sans Voix, hein, cette ONG Défense des droits de l'homme, qui a réagi par rapport à l'adoption de cette loi en dénonçant l'exclusion par l'exclusion de la société civile, la conséquence logique de la politisation de la société civile par la classe politique à des fins partisans. Fumutoso Basanga.
D'abord, je réagis contrairement à mon frère honorable député qui a dit que la société civile n'est pas écartée et qui pense que les personnalités indépendantes naîtres seront et auront la possibilité d'être choisies par le responsable des partis politiques. Non. S'il me dit que lors des travaux, il n'y a aucun endroit où on a montré l'utilité de la société civile, alors ça, cela n'est pas vrai. La loi dont il est question, je l'ai ici devant moi, je vous prouve comment, d'une manière ou d'une autre, on a évité cette société dite civile. Je suis au niveau de l'article 10, je reprends, on dit, la CENI est composée de 7 membres, dont 4 désignés par la majorité et 3 par l'opposition à l'Assemblée nationale. La désignation des membres tient compte de la représentation nationale d'un seul genre. La représentation nationale, est-ce que la société civile est représentée là-bas? On a cité la représentation dont il est question. Maintenant, là où le député pense qu'on a songé à la société civile, ce serait au niveau de l'article 11 de la même loi. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues par leurs compétences. On n'a pas dit que ces compétences ne peuvent pas être trouvées dans les partis politiques pour qu'ils puissent dire que non. Le fait qu'on a dit que ce sera sélectionné sur base des compétences, donc il viendra de la société civile. Non, c'est pas dit ça.
Mais aussi à ce niveau-là, sans vous couper la parole, Fumutoso Basanga, on sait comment se passent généralement les choses. Hein. Les chefs des partis politiques, qu'est-ce que je voudrais dire, s'imposent hein, quand il faut déjeuner ou...
La loi sous les a répondu à cette question, je vais donner l'article. Alors, on dit leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle.
on n'a pas dit que ces qualités, on ne peut les trouver que dans la société civile. Pour dire que le fait qu'on ait dit ça, ça signifie que les gens seront élus sur base de la structure de la société civile. Mais là où la loi renvoie à la négation de ses membres en tant que ressortissant de partis politiques, c'est lorsque la loi met l'accent à l'article 16, je cite, au niveau de la prestation, article 19, au niveau de la prestation de mandat. L'article 19 dit ceci: je prends l'engagement, les membres, comment ils vont prêter les serments devant la Cour constitutionnelle? Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance et à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la commission.
Et qu'est-ce que vous voulez dire, Pam?
Justement, selon nous disons, alors, les autres forces vives de la nation doivent saisir l'occasion de dire la neutralité, c'est par rapport à l'appartenance au parti politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre le terme neutralité par celui qui était désigné par sa composante politique et qu'arrivant au niveau de la structure qui est la CENI actuellement, il va dire il se fait naître et se défait des intérêts de sa formation politique.
Donc,
ça n'existe pas.
Vous voulez dire que les députés sont tombés dans leur propre piège?
Ils sont tombés dans leur propre piège et sans faveur de la troisième voie dont je suis le génitaire et porte-parole, parce que l'histoire politique du Congo témoignera qu'à part le courage de pensée que j'ai apporté, personne n'a joué la neutralité et l'impartialité dans les prises de questions, des débats d'État au Congo.
Alors, vous avez aussi énoncé qu'il y aurait possibilité que le chef de l'État puisse faire revenir les choses à la normale, d'après vous. C'est laquelle?
Oui, justement, c'est parce que je voulais aussi donner un autre article. C'est celui qui dit, qui parle sur...
Si vous pouvez répondre directement à ma question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Justement, dans mes minutes, je vois que je parle...
Il vous reste une minute.
Deux minutes, et les autres ont fait 11.
Allez-y,
alors,
c'est moi qui gère le temps.
Pour encore montrer à monsieur le député qu'on n'a pas empêché aux membres des partis politiques d'être membres de cette structure, c'est l'article 16 sur l'incompatibilité dans l'exercice des mandats dans cette structure. Le point 11 dit « Toute responsabilité au sein d'un parti politique ou d'un regroupement politique est incompatible. » Ça veut dire que si je suis secrétaire national dans un parti politique, c'est question de renoncer à cette responsabilité comme président, comme toute autre responsabilité, d'être simple membre, je suis capable de passer membre dans cette structure, c'est pas incompatible. Mais le vrai problème se situe à ce niveau. Il y a aussi tricherie dans le choc du concept de la société civile. La société civile s'est dit apolitique. Mais aujourd'hui, nous constatons avec amertume que cette même société civile est devenue la caisse de résonance par excellence des positionnements politiques.
Après, c'est l'honorable tout, hein?
Non, c'est notre position depuis toujours. On a confondu et on a triché par rapport à l'approche scientifique et étymologique. Le terme civil n'est pas opposé aux politiques, mais c'est aux militaires quand on dit mariage civil ou ingénieur et génie civil. Ce n'est pas opposé à la politique. S'il vous plaît, dans la minute, j'achève. Je voudrais vous dire exactement que on a confondu les autres forces vives de la nation, notamment les courants sociaux qui sont reconnus par l'article 26 et 37 de la Constitution, et la société civile structurée qui s'est dit indépendante et formant le groupe de parlementaires indépendants, mais ce sont les indépendants d'une majorité ou d'une opposition.
Alors, par rapport au chef de l'État,
je félicite maintenant les députés d'avoir désaligné cette soi-disant société civile.
Voilà.
Par rapport au chef de l'État, il est le garant de la nation, le représentant légal de la Constitution. Il va tenir compte de toutes les faiblesses que nous sommes en train de soulever pour renvoyer cette loi à la seconde lecture, afin que la loi qui détermine l'avenir du pays soit plus exacte qu'une loi caisse de résonance pour les politiciens qui ne défendent généralement que leurs propres intérêts.
Maître Tunda, comment vous réagissez par rapport à ce que dit Fumutoto et Valentin Mbake?
Je suis d'abord très ravi que Fumutoto, notre analyste politique, puisse affirmer à haute voix que cette société civile pratiquement n'existe plus. Elle n'est pas neutre, c'est une caisse de résonance des partis politiques. Moi, je crois qu'il s'adresse plutôt à Valentin Mbake qui va peut-être lui répondre. Mais je suis très ravi de cette position courageuse. Moi, je n'ai pas voulu le dire, À l'Assemblée nationale, on n'a pas voulu dire des mots aussi forts, mais je crois comme il l'a dit, bon, nous prenons tous acte.
Mais il propose aussi que le chef de l'État tienne compte des faiblesses hein, pour envoyer cette loi en deuxième lecture.
Le chef de l'État tient toujours compte de ce qui garantit les intérêts de la nation. Ça, vous pouvez être certain. Mais dans le cas d'espèce, le chef de l'État va se référer à plusieurs éléments. Et là également, je suis encore content. Pourquoi ? Parce que, à regarder de près tous les arguments que Valentin Moubaké a alignés tout à l'heure, je les salue d'ailleurs en passant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon ami Valentin, je les salue donc en disant, en fait, il n'a fait que renforcer l'analyse de l'Assemblée nationale. D'une part, il dit, lui, il se pose la question, lui, Valentin, en disant, est-ce que dans ce pays, on peut manquer cette personnalité en dehors des partis politiques ? Justement, c'est ce que nous avons voulu faire. On vous a lu l'article tout à l'heure. Donc, et la majorité et l'opposition ont voulu dire que les 7 personnalités qui seront choisies sont effectivement indépendantes et seront choisies en dehors, justement, des états-majors. Deuxièmement, Valentin dit qu'il fallait se référer à l'expérience d'autres pays en Afrique. Je lui dis, justement, dans beaucoup de pays d'Afrique, les membres des commissions électorales sont désignés par le chef de l'État seul. Mais ici, chez nous, compte tenu des avancées sur le plan démocratique, compte tenu, n'est-ce pas, de la position du chef de l'État, le nôtre, qui ne voudrait pas empiéter sur la marche des institutions, la marche de la démocratie, n'a pas voulu se mêler à la désignation des personnalités.
Conclusion, maître.
Et je conclue en disant que, en Afrique, dans certains pays, la plupart des pays, dans les espaces politiques ou économiques où nous nous trouvons, la SADC par exemple, vous allez en Namibie, 5 membres désignés par les chefs de l'État. Vous allez, je ne sais pas, au Zimbabwe, la même chose. Nulle part, vous ne trouvez plus de 7 personnes et tous désignés par le chef de l'État seul. Ici, chez nous, le président de la République, qui est le rassembleur, le garant de la
République,
se met à l'écart. Aux États-Unis, quand vous prenez la Cour suprême
de justice. Il reste 2 minutes.
Oui, la Cour suprême de justice, eh bien, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui nomme les juges de cette institution.
Merci.
Mais cela ne dit pas qu'ils ne sont pas maîtres.
Merci, M. Kounda. Voilà. Valentin Moubaké, votre conclusion également.
Je n'ai jamais plaidé au cours de cette émission pour une quelconque société civile. Je répète que j'ai dit la procédure de désignation de ces personnes confiées aux politiciens qui sont en train de gérer le pays aux différents niveaux, c'est une mauvaise procédure. C'est ce que j'ai dit. Et deux, je dis tout simplement que l'heure de vérité a sonné pour le chef de l'État et sa majorité. Nous saurons si il peut, lui, le chef de l'État, sauvegarder la paix et respecter les Congolais pour les amener dans un processus libre, démocratique et transparent, où il veut encore une fois, à travers sa majorité, profiter le pouvoir et amener ce pays vers le désordre.
Merci Valentin Moubaké. Fumototo, un mot en guise de conclusion.
Merci. En guise de conclusion, nous savons que le chef de l'État est là. Il a trouvé la liberté et le processus démocratique en cours. Nous ne discutons pas de sa possibilité, sa capacité de nous aider à perfectionner cette loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est la dernière.
Oui, c'est ça. L'article 9 de la loi sous examen ne parle pas de recensement, mais pas seulement de l'identification et des enrôlements. Moi, je crois que c'est déjà une faiblesse. Il faut une loi qui statue sur l'enrôlement par le recensement. Ça va nous permettre d'avoir des Congolais qui votent pour le Congo et non le contraire.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous ont préparé cette émission, Guy Maté, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la coordination rédactionnelle de Péléquipé Lamondo, Bob Landou, à la coordination technique et Eddy Marquis à la mise en onde, à la présentation Alain Hirung. Au revoir.